Chapitre 44. Partout, des cloches sonnaient pour prévenir les habitants. En procession, les membres du conseil et les deux dirigeants d'Île Dakar remontaient les rues en direction de la Grande Pyramide. Comme s'ils se rendaient à une fête, des nobles et des négociants de haut niveau convergeaient vers le même lieu. Combinée à la fermeture des boutiques, des auberges et des tavernes, cette agitation soulignait l'importance de la journée à venir.
« Quoi qu'il arrive, » dit Nietzsche en sortant de la villa, « ça ne me plaît pas du tout. »
Personne ne l'avait invité, idem pour Nathan, mais elle tenait à être présente car tout semblait avoir un lien avec le linceul. Nathan à ses côtés, la magicienne suivit la foule.
« Où est Bannon ?» demanda le vieux sorcier.
« Maintenant que les Norokai sont partis, il ne doit plus quitter ses soi-disant amis. »
Le jeune escrimeur était bien trop ouvert et excessivement confiant. Bien des fois, Nietzsche avait vu un rictus mauvais sur les lèvres d'Amos, de Jed ou de Brock. Dans son enfance, la magicienne aussi avait cruellement manqué d'amis. Impitoyable, sa mère l'avait forcé à faire de la propagande pour l'ordre impérial et à suivre les enseignements de frère Naref. Tout ça en dénigrant le travail et le succès de son mari, bien entendu. Dans ces conditions, Nietzsche n'avait jamais eu envie d'avoir des amis. Et si le concept d'amitié de jeunesse lui restait entièrement étranger, elle se sentait néanmoins proche de ses deux compagnons de voyage.
« Selon ce que les sorciers ont l'intention de faire, » souffla-t-elle afin que Nathan seul l'entende, « Bannon n'a aucune envie d'être dans le coin. Surtout quand on pense à ce que nous allons peut-être devoir risquer pour arrêter tout ça. »
Sous un ciel chargé, mais pas encore pluvieux, les cloches continuaient de sonner dans tous les niveaux de la ville. Dans l'air, Nietzsche captait partout une tension sous-jacente.
« On ne nous a pas informés, » dit Nathan. « Nous ne serons pas les bienvenus, je suppose. »
Un détail qui n'allait pas arrêter Nietzsche.
« Eh bien, on s'en passera. Suis-moi, sorcier. »
Le front plissé, Nathan étudia les gens en train de se masser autour de la pyramide.
« Je crois, chère magicienne, que ça va chauffer. Même sans mon don, je sens monter la tension. »
Nietzsche repoussa une mèche de cheveux blonds derrière son oreille et accéléra le pas.
« Moi, j'ai mon don, et si je choisis de ne pas m'en servir, à quoi bon disposer d'un tel pouvoir? Je ne pourrais pas me contenter d'observer. »«
Je connais ta puissance, » dit Nathan, « mais si tu commets la moindre erreur, toute la ville se retournera contre nous. » Et nous finirons raides morts ou vaincus pour le moins. Tu sais de quoi sont capables les sorciers d'Île Dakar. Tu as vu Maxime pétrifier le berger en quelques secondes. »
Nietzsche ne ralentit pas le rythme.
Eux, ils ne savent pas de quoi je suis capable. Le Douma et tous les détenteurs du don de cette ville n'ont jamais eu affaire à quelqu'un comme moi.
Dans la foule que les deux amis avaient rejointe, un type très bien habillé avait calé une coupe de raisin sous son bras et il dévorait les grains, recrachant nonchalamment les pépins. Nietzsche capta un mélange d'odeurs de sueur et de parfums capiteux. Pour une grande occasion, tous les mâles avaient huilé leurs cheveux et sorti leurs plus beaux atours, y compris des capes brodées de fourrure ou de longues tuniques aux poignets en dentelle. En robe du soir, les femmes donnaient l'impression d'aller au bal. Dans la cacophonie des cloches, vraiment mal synchronisées, Nietzsche se faufila entre les gens qui flânaient vers leur destination. Nathan parvint à la suivre et parut soulagé quand ils atteignirent les premières marches de la pyramide.
« Cette excitation partout !» haleta Nathan. « Ça doit être un effet de la magie de sang. On savait que les sorciers en arriveraient là. Je crains qu'il y ait des morts en grand nombre.
C'est un risque, oui. »
Quand la procession de dirigeants déboula devant la pyramide, la foule s'écarta pour la laisser passer. Marchant en tête, Thora et Maxime semblaient séparés par un épais mur de glace. Mais en matière de pouvoir et de magie, ils restaient de fidèles partenaires. En robe verte bordée de fourrure grise, Thora n'avait rien à envier à son mari, superbe dans une riche cape rouge. Sans leur accorder un coup d'œil, les deux dirigeants dépassèrent Nietzsche et Nathan sur les marches. Les cinq conseillers présents les suivaient, gonflés de leur importance. André, Ivan, Elsa, Quentin et Damon, unis par la même soif de pouvoir. Mal à l'aise, Elsa tourna la tête vers Nathan, le gratifia d'un petit sourire, puis souffla à Quentin.
« Il est anormal de faire ça en l'absence de Reine. On devrait attendre qu'il soit revenu. »«
Sauf qu'il ne reviendra peut-être jamais, » marmonna Quentin. « Le Douma peut se débrouiller sans lui. De toute façon, il n'est pas fiable. Depuis la tentative ratée de Lani, je doute de la loyauté de notre ami. »
Elsa encaissa mal le coup.
« Rennes est depuis toujours un membre loyal du Conseil. »«
Si tu le dis. Mais dès que le linceul sera activé, il devra attendre longtemps pour qu'on le laisse entrer. Et j'espère que la magie de 107 fois nous protégera pendant des lustres. »
Arrivés au sommet, Thora et Maxime firent face à la foule. Dès qu'ils les eurent rejoints, les conseillers vinrent se placer à côté d'eux au pied de l'étrange machine. Tendant les bras, Maxime balaya la foule du regard. Même de sa position sur les premières marches, Nietzsche vit que ses yeux brillaient.
Ildakar existe depuis des milliers d'années.
La voix du sorcier en chef n'avait rien de tonitruant. Pourtant, Nietzsche aurait parié qu'un sort la portait jusqu'aux oreilles des esclaves et des ouvriers dans la basse ville.
Et notre ville, enchaîna Thora, est protégée par nos soins. Notre façon de vivre est parfaite, mais une telle harmonie a nécessairement un coût.
La voix très assurée, la souveraine ne semblait pas attristée par ce qui allait suivre.
Et ce coût, c'est le sang.
Au pied des marches, 10 gardes avançaient, flanquant 12 esclaves aux poignets entravés par des cordes. Certains tentaient de résister, mais les gardes ne les laissaient pas faire. Calmes, mais impitoyables, ils forçaient les récalcitrants à suivre le mouvement. Nietzsche reconnut des visages aperçus sur le marché aux esclaves. De la viande sur pattes, livrée par les Norokai. 7 hommes et 5 femmes de tous les âges, choisis au hasard pour mourir. L'air stoïque, un couple d'âge mûr s'engagea sur les marches. Passant la première, la femme gravit quelques marches, puis tendit la main à son compagnon qui vint la rejoindre et mêla ses doigts aux siens. De vieux amoureux, comprit Nietzsche. Plusieurs esclaves avaient les yeux vides, comme si on les avait drogués, peut-être avec les fleurs rouges. En larmes, une femme peinait à suivre les autres, sans doute à cause de ses vieilles articulations douloureuses. Très costaud, un type se débattait et tirait sur la corde, mais les autres continuaient à se diriger vers l'enclos métallique à l'avant-dernier étage de la pyramide. Thora s'adressa aux 12 malheureux.
« Immobilisez-vous devant Ildakar !»
Les esclaves sautèrent d'un pied sur l'autre, désorientés. Agacée, Thora infusa un rien de magie dans l'étrange machine. Amplifié, son sortilège enveloppa les 12 futurs sacrifiés et les tétanisa. La foule murmura. Alors que les nobles et les négociants semblaient ravis, les miséreux malfagotés semblaient beaucoup moins enthousiastes.
« Arrêtez !»
cria soudain Nietzsche. De surprise, presque toute l'assistance poussa un petit cri.
« Sovrena, s'il y a un prix, pourquoi ne pas t'en acquitter avec ton propre sang ?»
Thora foudroya la magicienne du regard.
« Parce qu'il a bien trop de valeur !»
Nietzsche sentit vibrer la toile de magie maléfique qui courait dans toute la cité pour converger sur la fabuleuse pyramide.
« Du coup, tu assassines des prisonniers. Pour le plaisir, je suppose ? Non, par nécessité. Ces esclaves paieront le prix, c'est pour ça qu'ils sont faits. »
Toujours tétanisés, les 12 esclaves tremblaient, et la vieille femme continuait à pleurer malgré le sortilège qui l'empêchait de bouger.
« Ces hommes et ces femmes nous sauveront !»
s'écria Thora. Quelques esclaves la regardèrent sauvagement et d'autres baissèrent les yeux. S'écartant de Nathan, Nietzsche avança et utilisa son don pour forcer les gens à lui céder le passage.
« Non, Thora !»
dit-elle en commençant à monter les marches. En combinant les magies additives et soustractives, elle pouvait invoquer un éclair qui jaillirait du ciel. Les sorciers du cru étaient-ils familiers de la magie soustractive ? L'ancienne maîtresse de la mort aurait juré que non.
« Si tu n'interromps pas cette folie, je te le ferai regretter !»
Si elle carbonisait le sommet de la pyramide, la magicienne serait sûre d'avoir mis un terme à la cérémonie. En outre, cet événement serait l'étincelle que Masque Miroir et ses partisans attendaient pour passer à l'action. Si elle attaquait, sortirait-il de la foule pour lui prêter main forte ? Après une longue attente, le moment était peut-être venu. L'assistance, soudain silencieuse, des gémissements montèrent de la gorge des 12 esclaves. Malgré leurs efforts, ils ne parvenaient pas à bouger, et ils étaient exactement en face d'un étrange système de drainage, une configuration qui ne devait rien au hasard.
« Sovrena, laisse-moi plaider leur cause !»
Avec un bel ensemble, comme s'ils avaient répété des dizaines de fois, Les cinq conseillers et Maxime sortirent de sous leur tunique un long couteau de cérémonie à la lame incurvée et aux manches ornées de pierres précieuses. D'un geste, Thora força les esclaves à incliner la tête en arrière pour exposer leur gorge. Résistant à la magie, l'homme et la femme âgée parvinrent à tendre un bras sur le côté et à se prendre la main, un ultime réconfort durant les dernières secondes de leur vie. Sur leurs joues, des larmes ruisselaient comme la pluie. Leur couteau à la main, les conseillers hésitèrent, un œil sur Nietzsche qui continuait à monter, la magie grandissant en elle. À l'évidence, son audace impressionnait une partie des sorciers. Muette, la foule attendait la confrontation entre Thora et l'étrangère. En Nietzsche, le don bouillonnait comme de la lave en fusion. Elsa et Damon baissèrent leurs armes. Comme toujours, Maxime semblait s'amuser et les autres sorciers ne savaient que faire. « Finissons-en, Thora !» souffla Maxime. « Inutile de dramatiser les choses !» Mesurant l'hésitation des conseillers, la sovereigna plia les doigts, puis tendit le bras vers les esclaves paralysés une quinzaine de pieds au-dessous de sa position. Avec un sourire cruel, elle zébra soudain l'air du bout de ses ongles vernis. Nietzsche prépara un gros point d'air apte à repousser tous les sorciers, mais avant qu'elle ait pu le lancer, le couteau magique de Thora, plus coupant qu'un rasoir, trancha la gorge des 12 esclaves. Alors qu'ils écarquillaient les yeux terrorisés, la sovereigna leur rendit leur liberté de mouvement. Ils tombèrent à genoux, presque décapités, et leur sang coula docilement vers les canaux qui le conduiraient jusque dans le miroir concave. Maxime et les 5 conseillers baissèrent les yeux sur leur arme de cérémonie. Ils n'avaient rien fait, et pourtant, stupéfié, Nietzsche s'immobilisa sur une marche.
« Par les esprits du bien !»
Le sang coulait vers le haut, et la magie s'accumulait partout dans la pyramide. Tétanisés à leur tour, les spectateurs murmuraient entre eux. Nietzsche lança son point d'air, mais Thora riposta avec le même sort, repoussa l'attaque et faillit faire perdre l'équilibre à son adversaire. Très vif malgré son grand âge, Nathan se précipita pour la retenir. Alors que le sang des esclaves se déversait dans les canaux, Maxime leva les mains et décrivit des arabesques dans les airs. Tel un torrent, la marée de sang se répandit sur la forme de sortilège gravé sur le sol de la plateforme, un défi à la loi de la gravitation, mais comment s'en étonner au point où on en était. Les 5 conseillers et les 2 dirigeants se rassemblèrent autour du miroir concave, le saisirent et l'orientèrent pour qu'il soit face au ciel. Quand il eut fini d'imprégner les runes gravées sur le sol, le sang, toujours aussi insouciant des lois de la physique, forma un seul et unique flot qui, tel un geyser, vint remplir le miroir concave. Alors que les conseillers s'écartaient, Thora et Maxime restèrent en place. Le miroir vibra, scintilla, puis propulsa vers le ciel une colonne de sang. En tourbillonnant, cette flèche rouge s'éleva très haut, puis explosa en une multitude de gouttes qui ne retombèrent pas vers le sol, mais formèrent un dôme géant qui couvrit toute la ville avant de devenir transparent. Des vivas montèrent de la foule. Vaincu, Nietzsche eut un haut-le-cœur alors que Nathan l'aidait à se redresser.
« J'aurais dû arrêter cette horreur !»
rugit-elle furieuse contre elle-même. « La sovereigna lui paierait ça !» se jura-t-elle. Au sommet de la pyramide, Thora savourait sa victoire auprès de son mari, ravi lui aussi. Sa tentative ayant lamentablement échoué, la sovereigna ne semblait même pas en vouloir à Nietzsche.
« Magicienne, souffla Nathan, tu ne pouvais pas deviner ce qui allait arriver. »
« Bien sûr que si. Nous le savions tous les deux, et nous voilà prisonniers du linceul. Sorcier, nous avons une mission, rester ici est hors de question. »
Le vieil homme ne parut pas convaincu.
C'est peut-être la preuve qu'elle est ici, notre mission. Même piégé à Ildakar, il nous reste du pain sur la planche. Un jour, ces gens regretteront de ne pas nous avoir laissé partir.
Se souvenant que le temps s'écoulait différemment sous le linceul, Nietzsche se força au calme.
Même si ça doit prendre une éternité, dit-elle de nouveau glaciale.